الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، En ce jour, nous avons rendez-vous avec le digne de confiance. Celui qui, parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, a gardé le secret de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a été le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam ici-bas, et il le sera aussi dans l'au-delà. Qui est cet homme? Il s'agit de l'intelligent, du perspicace, de l'adorateur, du pieux, du pur au cœur frémissant, un homme qui était simple et accessible, clément et généreux. Il est l'homme qui questionna le prophète alayhi salatu wassalam à propos du mal pour s'en préserver et à propos du bien pour l'accomplir. Il s'agit du compagnon le plus savant concernant les fitanes, les troubles. Il est le héros de Nahawand, le délégué de Omar radiallahu anhu à Al-Kufa. Il est celui qui suggéra à Uthman radiallahu anhu de rassembler le Coran. Il s'agit du compagnon le plus savant sur tout ce qui va se produire jusqu'au jour du jugement. Il s'agit de Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu wa an jami' al-sahaba. Mes frères et sœurs, cette introduction à elle seule en dit beaucoup sur ce noble compagnon. Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu, si nous méditons sur tous les mérites cités sur ce compagnon dans cette introduction, nous remarquerons que nous avons rendez-vous ce soir avec une personne unique en son genre. Et je n'exagère pas. Bien au contraire, ces paroles, ou même toutes les paroles, ne suffiraient pas pour décrire les mérites des compagnons de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est malheureux de constater que beaucoup parmi nos frères et sœurs, nos parents et nos enfants ne connaissent absolument rien à propos de la vie des compagnons. Au lieu de prendre ces gens comme modèle, on préfère prendre comme modèle les stars, les acteurs, les chanteurs, les rappeurs, les footballeurs. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. C'est pour cela que nous avons choisi de traiter la biographie d'un des compagnons radiallahu anhu, car c'est de cette manière qu'on va pouvoir retrouver les vrais modèles. Mes frères et sœurs, Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, est le fils de l'Yaman, qui est Hussein ibn Jabir ibn Amr al-Absi. Son père est Hussein ibn Jabir ibn Amr al-Absi. Avant l'islam, al-Yaman, donc le père de notre invité du jour, Hudhayfa, radiallahu anhu, avant l'islam, le père de Hudhayfa avait tué un homme de sa tribu. Il prit alors la fuite vers Yathrib, qui est la ville de Médine. Et il conclut un pacte avec la tribu des Banu Abd al-Ashhal, qui était la tribu de Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, et celle de Usayd ibn Hudayr, radiyallahu anhu, an jami' al-Sahaba. Et on a vu ensemble la biographie de Sa'd ibn Mu'adh. Donc, après ce pacte avec les Banu Abd al-Ashhal, sa tribu lui accorda le surnom d'Al-Yaman. D'Al-Yaman, qui sont en fait les Ansar. Al-Yamaniyya, c'est les Ansar, les habitants de Médine. Cette explication est tirée de l'œuvre de l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, Siyar A'lam al-Nubala. Ce passage est très important et va nous permettre de comprendre la personnalité de Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu. Lorsque la tribu des Banu Abd al-Ashhal a embrassé l'islam, Al-Yaman en fit de même. Al-Yaman, on a dit, c'était son père, le père de Hudhayfa. Il embrassa l'islam, lui et toute sa famille. Rappelez-vous ce qu'a dit Sa'd ibn Mu'adh à son peuple après qu'il a embrassé l'islam. Sa'd avait dit à son peuple, qui était lui le chef de la tribu des Banu Abd al-Ashhal, il leur a dit, qu'est-ce que je représente pour vous? Ils dirent, tu es notre chef. Tu es notre chef et le meilleur d'entre nous. Sa'd radiallahu anhu leur a dit, je n'adresserai la parole à personne d'entre vous tant que vous ne croirez pas en Allah et en son messager. Et subhanallah, le jour même, tous les hommes et toutes les femmes de la ville embrassèrent l'islam. Tous. Puis quelques temps après, Hussein, donc Al-Yaman, le père de Hudhayfa, prit ses deux enfants, Hudhayfa et Safwan, et ils partirent vers la Mecque pour y prêter allégeance au prophète, alayhi salatu wasalam. Puis plus tard, Hudhayfa retourna à Médine avec sa famille parce qu'il a choisi d'être un habitant de Médine. Et il a préféré faire partie des Ansar plutôt que des Muhajirin. Et c'est le prophète alayhi salatu wasalam qui lui proposa de faire le choix. Ce jeune homme, radiallahu anhu, était fier de son peuple. Il était fier de son peuple qui avait une alliance avec son père et qui l'avait honoré auparavant. Il partit donc à Médine pour y attendre ce jour où le prophète alayhi salatu wasalam illuminera la ville par son émigration. Et lorsque le prophète alayhi salatu wasalam arriva à Médine, Hudhayfa radiallahu anhu ne se séparait plus de lui, sallallahu alayhi wa sallam. C'était impressionnant. Il était très attaché au prophète alayhi salatu wasalam. Et subhanallah, le plus beau dans tout ça, c'est que le prophète alayhi salatu wasalam était lui aussi très attaché à Hudhayfa. Allahu Akbar. Le prophète alayhi salatu wasalam était très attaché à Hudhayfa, radiallahu anhu. Et il l'aimait très fort, de par ce qu'il a remarqué comme trait de caractère très particulier chez Hudhayfa. Hudhayfa, radiallahu anhu, était un croyant sincère, un homme doté d'une vision perspicace, d'une intelligence remarquable, d'une honnêteté très rare, que seuls ceux qui ont la foi enracinée dans leur cœur possèdent des caractéristiques très particulières. Et c'est ce que remarqua le prophète, alayhi salatu wasalam. Hudhayfa, radiallahu anhu, il faut savoir aussi qu'il était un savant dans un chapitre qu'on appelle le chapitre des fitan, des troubles. Des troubles, c'était une montagne de science dans Bab al-Fitan, le chapitre des troubles. Hudhayfa radiallahu anhu avait une personnalité très spéciale. Alors que tous les compagnons avaient l'habitude de questionner le prophète alayhi salatu wasalam à propos du bien, pour l'accomplir bien sûr, Hudhayfa radiallahu anhu quant à lui avait l'habitude de questionner le prophète alayhi salatu wasalam à propos du mal. Pourquoi à votre avis? Pour s'en préserver, pour l'éviter. Les gens lui demandaient quelles étaient les portes du bien. Mais Hudhayfa lui demandait plutôt quelles étaient les choses qui étaient mauvaises, qui étaient connues pour être un mal, pour s'en préserver. Et comme vous le savez, le bien éclaire aux doués de raison, à ceux qui ont une nature saine non souillée. Quant au mal, il est de plusieurs couleurs. Le mal, un grand nombre de gens ont du mal à le repérer. Allah tabarak wa ta'ala dit dans sourate Al-An'am, sourate 6, verset 116, « وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنِّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ » Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Donc la majorité des gens ne connaissent pas ce qui est le mal dans son ensemble. Ils connaissent certains mal, mais ils ne connaissent pas tout. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Et Allah tabarak wa ta'ala dit dans surat Yusuf, surat 12, verset 106, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Et Allah azzajal a dit dans surat Hud, surat 11, verset 40, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Et Allah azzajal a dit dans surat Saba, surat 34, verset 13, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Alors qu'il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. On voit donc à travers ces plusieurs versets que la majorité des gens sont dans le faux. Ce n'est pas le nombre qui compte. Ce n'est pas parce que la majorité des gens font une chose qu'ils ont raison. Non. Ils ont raison s'ils suivent le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Donc on a dit que les compagnons radiallahu anhum avaient l'habitude de questionner le prophète alayhi salatu wasalam à propos du bien. Tandis que Hudhayfa radiallahu anhu le questionnait toujours à propos du mal. Des gens du mal, des épreuves, comment s'en préserver, etc. Et Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu a dit, et cela est rapporté par l'imam muslim, par Allah, il jure, par Allah, je suis certes le plus savant des gens concernant chaque trouble qui aura lieu entre l'heure et moi. Allahu Akbar. Il jure par Allah. Par Allah, je suis certes le plus savant des gens concernant chaque trouble qui aura lieu entre l'heure et moi. C'est un alim. C'est un alim fi hadha al-bab. Dans ce chapitre des troubles, c'est un grand savant. Radiallahu anhu. Et on vous a dit que c'était rapporté par l'imam muslim. Et Hudhayfa radiallahu anhu a dit, le messager d'Allah alayhi salatu wasalam m'a informé de ce qui se produira jusqu'à l'avènement de l'heure. Et c'est rapporté par l'imam muslim. Le prophète alayhi salatu wasalam savait tout ce qui allait se produire sur terre jusqu'au jour du jugement. Est-ce que ça vous étonne? Le Nabi alayhi salatu wasalam, il a su ça comment? Parce qu'Allah azza wa jal l'a informé de cela. Hudhayfa radiallahu anhu a rapporté, le messager d'Allah alayhi salatu wasalam se mit debout parmi nous et de sa place, il n'est pas une chose qui allait se produire jusqu'à l'avènement de l'heure sans qu'il ne nous en ait informé. Certains les ont mémorisés et d'autres les ont oubliés, c'est rapporté par le Bukhari. Ce discours qu'a fait le prophète alayhi salatu wasalam est celui qui est cité dans le hadith suivant. Abu Zayd Amr ibn Akhtab radiallahu anhu raconte, le prophète alayhi salatu wasalam accomplit avec nous la salat du Fajr, puis gravit le minbar, là où l'imam fait le discours le vendredi, et fit un sermon jusqu'à l'heure de Dhuhr. Du Fajr à Dhuhr, il a fait un discours. Est-ce que c'est terminé? Non. Écoute bien la suite. Il descendit alors et pria. Après quoi, il monta à nouveau sur le minbar et s'adressa à nous jusqu'à l'heure de Asr. D'accord? Donc tout ça, il est sur le minbar en train de parler, alayhi salatu wasalam. Après avoir prié, il continua son sermon jusqu'au coucher du soleil. Durant tout ce temps, il nous parla des événements passés. Allahu Akbar. Des événements passés et de ce qui allait encore arriver dans l'avenir. Il aura tout expliqué, alayhi salatu wasalam. Ceux qui parmi nous ont la meilleure mémoire sont les plus savants à ce sujet, rapporté par le muslim. Une personne pourrait se demander, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ces hadiths qu'on vient de citer et les versets qui indiquent que le raïb, l'invisible, n'est connu que d'Allah? Est-ce qu'il y a une contradiction? La réponse c'est quoi? Non. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui a informé le Nabi alayhi salatu wasalam de cela. Donc effectivement c'est du raïb. Et tout ce que les gens connaissent, ils le connaissent grâce à Allah. Même les prophètes, c'est Allah qui leur enseigne tout. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate al-Jinn, Sourate 72, versets 26 et 27, عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ اِرْتَضَ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. Celui qui connaît l'inconnaissable, Azza wa Jalla, il ne dévoile l'inconnaissable à personne, sauf à celui qui l'agrée comme messager. Donc on voit qu'Allah tabaraka ta'ala dévoile, comme c'est mentionné dans le Coran, l'inconnaissable à celui qui l'agrée comme messager et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 255, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Et Allah tabaraka ta'ala a dit dans Sourate Al-Najm, Sourate 53, verset 1 à 4, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Comprenez que tout ce qu'a prononcé notre prophète alayhi salatu wasalam, il ne l'a prononcé qu'après l'avoir appris de son Seigneur Azza wa Jal. Je reprends le hadith. Abu Zayd Amr ibn Akhtab radiallahu anhu raconte, le prophète alayhi salatu wasalam accomplit une fois avec nous la prière du Fajr, puis il gravit le minbar et fit un sermon jusqu'à l'heure de Dhuhr, puis il descendit alors et pria. Après avoir prié, il continua son sermon jusqu'au coucher du soleil, du Fajr au Maghrib. Vous imaginez? Durant tout ce temps, il nous parla des événements passés et de ce qui allait encore arriver dans l'avenir. Et c'est rapporté par l'imam muslim. Et Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu était le plus savant d'entre eux à ce sujet, au sujet des troubles. Rappelez-vous que Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu a dit, par Allah, je suis certes le plus savant des gens concernant chaque trouble qui aura lieu entre l'heure et moi. Et écoutez avec moi ce hadith. Hudhayfa radiallahu anhu dit, nous étions assis chez Omar, Omar al-Khattab, radiallahu anhu. Nous étions assis chez Omar, lorsqu'il nous dit, qui d'entre vous a retenu les paroles du messager d'Allah alayhi salatu wasalam sur les troubles? Moi, répondis-je, a dit Hudhayfa. Et là, Omar lui a dit, tu es certes audacieux. Et qu'a-t-il dit? Je répliquais, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wasalam, dire, le trouble de l'homme par rapport à sa famille, ses biens, sa personne, son enfant et son voisin est expié par le jeûne, la prière, l'aumône, la recommandation du convenable et l'interdiction du blâmable. Omar dit alors, ce n'est pas de cela que je parle. Je parle plutôt de celui, il parle ici du trouble, qui déferlera comme les vagues de la mer. Allahu Akbar. Je demandais, et en quoi cela te concerne-t-il, ô commandeur des croyants? Il y a entre toi et lui une porte fermée, entre toi et la fitna. Et Omar, il y a une porte fermée. Omar lui demanda, cassera-t-on cette porte ou bien sera-t-elle ouverte? Cette porte-là, est-ce qu'elle va être cassée ou est-ce qu'elle sera ouverte? Je répondis non, elle sera cassée. Hudhayfa a dit non, elle sera cassée. Omar dit, cela signifie qu'elle ne sera jamais plus refermée. Shaqiq dit, nous interrogeâmes ensuite Hudhayfa en disant, Omar savait-il qui était cette porte? Hudhayfa dit, oui, aussi bien qu'il savait que la nuit précède le jour. Donc Omar savait que c'était de lui dont il s'agissait. Je lui ai certes rapporté un hadith qui n'est pas une aberration. Il ajoute, nous eûmes peur, donc Shaqiq, nous eûmes peur de demander à Hudhayfa qui était cette porte. Les compagnons ne savaient pas c'était qui. Alors nous dîmes à Masruq ibn al-Ajda', un parmi Adba' al-Tabi'in, questionne-le, questionne Hudhayfa. Il l'interrogea, donc Masruq interrogea Hudhayfa concernant cette porte, et Hudhayfa lui dit, c'est Omar. La porte était donc Omar al-Khattab, et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Subhanallah, tant que Omar al-Khattab est en vie, la communauté est protégée de la fitna. Et si Omar meurt, c'est la porte de la fitna qui s'ouvre. En effet, Omar radiallahu anhu était une personne d'un caractère exceptionnel. On voit aussi à travers ce hadith l'intelligence de Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu. Et écoutez avec moi ce sublime hadith sur Hudhayfa radiallahu anhu an jami' al-Sahaba. Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu a dit, tandis que tout le monde interrogeait l'envoyé d'Allah alayhi salatu wasalam sur le bien, moi je l'interrogeais sur le mal par crainte d'en être atteint. C'est ce qu'on a cité tout à l'heure. Tandis que tout le monde interrogeait l'envoyé d'Allah alayhi salatu wasalam sur le bien, moi je l'interrogeais sur le mal par crainte d'en être atteint. Et là Hudhayfa a dit, ô envoyé d'Allah, nous étions dans l'ignorance et dans le mal. Et Allah nous a fait parvenir ce bien. C'est quoi ce bien? C'est l'islam. Est-ce qu'après ce bien, le mal viendra-t-il de nouveau? Maintenant que c'est bon, alhamdoulilah, on a l'islam. Est-ce qu'on va être touché encore une fois par un mal? Oui, répondit le prophète, alayhi salatu wasalam. Hudhayfa a dit, après ce mal, y aura-t-il du bien? Et là, qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wasalam? Il a dit, oui, mais il ne sera jamais pur. Allahu Akbar. Et on vit cette époque. On vit cette époque. Il y a un bien, mais il n'est pas pur. N'est-ce pas? Oui, mais il ne sera jamais pur. Et là, Hudhayfa radiallahu anhu a dit, qui le troublera? Regarde la réponse. Le prophète alayhi salatu wasalam répondit, des gens qui suivront une autre sunna que la mienne. Allahu Akbar. Comme ils sont nombreux aujourd'hui. Des gens qui suivront une autre sunna que la mienne et qui guideront vers une autre voie que ma bonne voie. Et dont, tantôt, vous approuverez les actes, tantôt vous les désapprouverez. C'est cette époque. On vit cette époque. Et là, Hudhayfa radiallahu anhu reprit. Et après ce bien, y aura-t-il encore un mal? Anabi alayhi salatu wasalam répondit, oui, il y aura des prêcheurs aux portes de l'enfer. Ceux qui répondent à leur appel, ils seront jetés. Ô envoyé d'Allah, lui dit Hudhayfa, décris-nous ces prêcheurs. Et regarde le fahm, l'intelligence de Hudhayfa qui cherche à comprendre les choses. Ô envoyé d'Allah, lui dit Hudhayfa, décris-nous ces prêcheurs. Des prêcheurs aux portes de l'enfer. Vous imaginez? Et là, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, ils seront issus de notre propre culture et ils parleront la même langue que nous. Hudhayfa dit, que m'ordonnes-tu de faire si j'assiste à cela? Et là le prophète alayhi salatu wasalam lui dit, tu devras suivre la communauté des musulmans et leurs dirigeants. Hudhayfa dit, mais si alors les musulmans n'ont ni communauté ni dirigeants? C'est la corruption totale. Le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit, écarte-toi de toutes ces sectes. Devrais-tu pour cela rester attaché au tronc d'un arbre jusqu'à ce que la mort t'advienne en te trouvant dans cette posture, rapportée par l'imam muslim. Le hadith, wallah al-azim, il est très très fort. Très fort. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, l'élève de Cheikh al-Islam, disait, les savants sont de deux types. Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Ils invitent les gens au paradis par leurs paroles et à l'enfer par leurs actes. Si leurs paroles disent aux gens, venez vers nous, leurs actes disent, ne nous écoutez pas. Qu'Allah nous préserve de cette situation. Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, était donc un spécialiste des maladies du cœur, un connaisseur en matière de troubles, de fitna. Dès lors, on entendait de Hudhayfa radiallahu anhu que des paroles qui permettaient de remédier aux maladies du cœur et d'éviter la fitna. Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, a dit, le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, nous a dit, deux sentences dont j'ai déjà vu la réalisation de l'une d'elles et dont j'attends celle de l'autre. Il nous a dit, alayhi salatu wasalam, que le respect du dépôt l'amana, était descendu. Le respect du dépôt était descendu. Et ils enrichirent ainsi leur savoir à partir du Coran et de ma tradition. Puis alayhi salatu wasalam nous a parlé du temps où le respect du dépôt remontera au ciel. C'est fini. L'amana, hein, l'honnêteté va disparaître. Puis alayhi salatu wasalam nous a parlé du temps où le respect du dépôt remontera au ciel. Il alayhi salatu wasalam dit, l'homme s'endort un moment et voilà que le respect du dépôt a été retiré de son cœur. Il n'y en restera plus qu'une trace légère. Puis il s'endort de nouveau et le respect du dépôt est retiré de son cœur. Sa trace n'y sera plus comme une boursouflure, telle une braise que tu laisses tomber sur ton pied et qui y provoque une cloque que tu vois proéminente mais qui ne contient rien de consistant. Il prit en même temps un caillou qu'il laissa tomber sur son pied. Les gens en viennent à chercher quelqu'un à qui faire acte d'allégeance. Et voilà qu'il ne reste presque plus personne qui reste le dépôt. Si bien qu'on finit par dire, il y a dans telle tribu un homme respectueux du dépôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va disparaître, l'honnêteté. Ça va tellement disparaître qu'on va dire, mais attends, il y a quand même telle famille, telle personne, dans tel endroit. T'imagines? Tellement ils seront rares. Jusqu'à ce qu'on dise à ce sujet qu'il est fort, qu'il est aimable et qu'il est sage, bien que dans son cœur, il n'y ait même pas le poids d'un grain de moutarde de foi. J'ai connu, dit Hudhayfa radiallahu anhu, des temps où je pouvais tranquillement faire acte d'allégeance à n'importe qui de vous. S'il était musulman, c'était sa foi qui était garante et sa loyauté. Et s'il était chrétien ou juif, c'était son gouverneur qui en était garant. Tandis qu'aujourd'hui, je ne donnerai mon allégeance qu'à un tel et un tel rapporté par Bukhari Muslim. Subhanallah, ce hadith montre que les personnes honnêtes vont disparaître. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. Et surtout, que ces malhonnêtes soient désignés comme étant des honnêtes. Et que les personnes honnêtes, on les désigne comme étant des malhonnêtes. Et ça, on a un hadith qui est explicite dessus. Le hadith d'Abi Huraira, radiallahu anhu, qui est rapporté par Ibn Majah et d'autres. Ce hadith-là, le Nabi alayhi salatu wasalam dit, avant la fin des temps, il y aura des années trompeuses. Des années trompeuses. On déclarera véridique le menteur. Et on démentira le véridique. On vit cette époque ou pas? Ceux qui disent la vérité, ils ne sont pas combattus? Oui ou non? On déclarera véridique le menteur. Et ceux qui mentent, on les présente comme étant des véridiques, des modèles, des exemples, des réformateurs, des vrais cerveaux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Avant la fin des temps, il y aura des années trompeuses. On déclarera véridique le menteur et on démentira le véridique. Celui qui dira la vérité, on le traitera de menteur. On fera confiance au traître et on accusera l'honnête de trahison. C'est pas trop précis, franchement. et parlera le roi Ibida. C'est quoi le roi Ibida? Et parlera le roi Ibida. Les compagnons ont dit, qu'est-ce que c'est le roi Ibida? Il dit, alayhi salatu wassalam, c'est l'homme ridicule qui parlera dans les affaires importantes au nom de la communauté. Et aujourd'hui, on en a plein des rois Ibida qui parlent. C'est vrai, c'est pas vrai? Des hommes ridicules qui parlent au nom de la communauté, on en a à l'appel. C'est l'homme ridicule qui parlera dans les affaires importantes au nom de la communauté. Revenons sur ce hadith. Je répète encore une fois ce hadith. Avant la fin des temps, il y aura des années trompeuses. On déclarera véridique le menteur et on démentira le véridique. On fera confiance au traître et on accusera l'honnête de trahison et parlera le roi Ibida. Les compagnons ont dit, qu'est-ce que le roi Ibida, il alayhi salatu wassalam, dit? C'est l'homme ridicule qui parlera dans les affaires importantes au nom de la communauté. Il a même été rapporté dans un autre hadith, selon Hudhayfa, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, en décrivant ce qui se produira avant la fin des temps, a dit, presque personne n'y appliquera l'honnêteté. Presque personne n'y appliquera l'honnêteté, au point d'arriver à dire, il y a chez les Banu un tel, dans telle tribu, un homme digne de confiance. Et à juger d'un homme en disant qu'il est endurant, qu'il est aimable, qu'il est raisonnable. Et cependant, cet homme n'aura pas dans le cœur le poids d'un grain de moutarde de foi. Et c'est rapporté par l'imam Ahmad. C'est devenu tellement rare de trouver quelqu'un d'honnête et de digne de confiance que c'est ce qu'on entend. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on le dit toujours. À tel endroit, il y a un commerçant honnête. Dans telle ville, il y a un homme honnête. Dans telle mosquée, il y a un imam honnête. Ils sont rares. Ils sont rares. Et cela était ce que disait Hudhayfa radiallahu anhu à propos de son époque. Imaginez-vous à notre époque. Nasallahu alayhi wa sallam. Que dire d'une époque où ce sont les imposteurs et les ignorants qui s'autoproclament représentants de la communauté? Et selon Hudhayfa radiallahu anhu, et comme je vous l'ai dit, Hudhayfa il était spécialisé dans les troubles mais aussi dans l'analyse des cœurs. Hudhayfa radiallahu anhu, il a dit, les cœurs sont de quatre sortes. Essaye de voir, ton cœur il fait partie de quelle catégorie parmi ces quatre? La première, un cœur propre, contenant une lumière s'épanouissant, celle de la foi, l'iman. Tel est le cœur du croyant. Tel est le cœur du croyant. Un cœur propre, contenant une lumière s'épanouissant. Tel est le cœur du croyant, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde ce cœur. Donc ça c'est la première catégorie. Deuxième catégorie de cœur, un cœur hermétique. Tel est le cœur du mécréant. Qu'Allah nous préserve de ce type de cœur. Ensuite, troisième type de cœur, un cœur qui bascule. Et ça, ça fait peur. Un cœur qui bascule, qui a su, puis a renié, qui a vu, puis a été aveuglé, tel est le cœur de l'hypocrite. T'es dans le 1, 2 ou 3. Un cœur qui bascule, qui a su, puis a renié, qui a vu, puis a été aveuglé, tel est le cœur de l'hypocrite. Et wallahi, je vous le jure par Allah, et c'est un rappel que je fais pour moi-même, en premier, on a besoin d'entretenir nos cœurs. Faut pas les laisser mourir. C'est une réalité. Aujourd'hui, on se préoccupe de quoi? Travail, on a fond dedans. Études, on a fond dedans. Famille, à fond. Et je ne dis pas que c'est mauvais, mais le problème, c'est qu'on a délaissé notre cœur. On l'a abandonné, on l'a laissé pourrir. Il faut l'entretenir, le cœur. Sahaba radiallahu anhum, c'était pour eux normal de faire des actes obligatoires et on ne compte même pas les œuvres surrogatoires qu'ils faisaient. Siyam, jeûne surrogatoire. Lecture de Coran, pleurer par crainte d'Allah, dhikr, amr bi ma'ruf, ordonner le convenable, interdire le blâmable, istighfar. Il y a énormément de bonnes choses à faire pour pouvoir entretenir son cœur. Mais est-ce qu'on fait partie de ces gens-là qui accordent de l'importance au cœur, ou est-ce que pour nous l'important c'est drahim, l'argent, les vacances, salaire, c'est la nouvelle voiture, hein, être toujours au top dans les vêtements, les voyages? Il n'y a que ça dans ta tête. Quatrième type de cœur, et je vous ai dit, Hudhayfa radiallahu anhu, c'est un spécialiste dans le domaine des cœurs, un cœur alimenté par deux matières. Une matière de foi et une matière d'hypocrisie. C'est la plus grande part de ces deux-là qui prend le dessus sur le cœur. Donc on reprend ensemble, on a dit, il y a quatre types de cœur. Le premier, c'est celui qui est propre. Il est illuminé par la foi. C'est le cœur du croyant. Deuxième cœur, il est hermétique. C'est celui du mécréant. Troisième cœur, c'est celui qui bascule. Qui a su, il connaît la vérité. Et après, il la renie. Il a vu la vérité. Puis après, il a été aveuglé. Il était avec nous dans la prière. Il était avec nous quand il fallait apprendre la religion, faire talab al-ilm, réviser le Coran, faire des muraja'a, faire des bonnes actions. Il était avec nous. Puis d'un coup, il s'est envolé. Shaitan l'a pris dans ses filets. Il est où maintenant? Loin. Loin. Il a vu, puis il a été aveuglé. Tel est le cœur de l'hypocrite. Ensuite, quatrième type de cœur, c'est un cœur alimenté par deux matières. Une matière de foi et une matière d'hypocrisie. Et c'est la plus grande part de ces deux-là qui prend le dessus sur le cœur. Celui qui possède ce type de cœur est dans un grand danger. Je parle de la quatrième catégorie. Il est dans un grand danger. Donc, il y a la foi, il y a l'hypocrisie. C'est la plus grande part de ces deux-là qui prend le dessus sur le cœur. Mon frère, ma sœur, recherche ton cœur parmi ces quatre cœurs-là. S'il ne fait pas partie de la première catégorie, fais des efforts et travaille sur toi-même jusqu'à purifier totalement ton cœur et y arriver. Mon frère, ma sœur, si tu te reconnais, par contre, dans la quatrième catégorie, fais très attention. Fais très attention car il est très dangereux de jongler comme ça. Très dangereux. Il est possible qu'Allah Azza wa Jal prenne ta vie pendant que tu commets un péché. Et que ta fin soit mauvaise. Et que ta fin soit mauvaise. Et vous savez mieux que moi que le prophète alayhi salatu wasalam a dit innamal a'mal bil khawatim. Les actes ne valent que par leur fin. Le plus important, c'est ta fin. Et pour avoir une bonne fin, il faut bien commencer. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Et les gens aujourd'hui, ils ont du mal à tenir sur le droit chemin. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Fussilat, Sourate 41, verset 30, « Inna alladhina qalu rabbuna Allah, thumma staqamu, tatanazzalu alayhimu al-malaika, alla takhafu wa la tahzanu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. » Ceux qui disent « Notre Seigneur et Allah » et qui se tiennent dans le droit chemin. Écoute bien, c'est pas ils le disent simplement. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Ça c'est pour qui? Pour quelqu'un qui croit et qui se tient sur le droit chemin. Un compagnon du prophète alayhi salatu wasalam lui a demandé, fais-moi une recommandation. Il lui a dit, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. Dis, je crois en Allah, puis tiens le chemin droit. C'est ça. Dis, je crois en Allah, ثُمَّ اسْتَقِمْ. Puis il a dit, tiens le chemin droit. Le verset dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Omar radiallahu anhu disait que les gens dont il est question dans ce verset sont ceux qui se sont tenus dans le droit chemin sans se faufiler comme les renards. Mon frère, ma sœur, tiens-toi donc dans le droit chemin et cesse de te faufiler comme un renard, car tu ne sais pas quand te viendra l'ange de la mort. Et s'il te vient pendant que tu commets un péché, sache qu'aucun retour en arrière sera possible. Selon Hudhayfa radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, les épreuves troublantes seront exposés au cœur de qui? Des croyants. Et les biens le marqueront comme les traces qui laissent les joncs de la natte sur le flanc du dormeur. Écoute bien. Les épreuves troublantes seront exposées au cœur. Et les biens le marqueront comme les traces que laissent les joncs de la natte sur le flanc du dormeur. Tout cœur qui en sera passionnément épris sera marqué d'un point noir. Et tout cœur qui les repoussera sera marqué d'un point blanc. De sorte qu'à ces épreuves, deux cœurs feront face. Deux cœurs feront face. Écoute bien ce hadith. Le premier, au point blanc, sera comparable au rocher. Inébranlable et lisse. Le rocher, il est inébranlable et il est lisse, n'est-ce pas? Donc le premier cœur, c'est celui qui est blanc, il est comparable au rocher. Aucune épreuve ne lui nuira aussi longtemps que dureront le ciel et la terre. Tandis que l'autre point noir deviendra presque grisâtre et sera comparable à une gargoulette renversée, incapable de distinguer le convenable du blâmable, tant que ni l'un ni l'autre ne correspond à ses propres désirs. Et c'est rapporté par l'imam muslim. Qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse que nos cœurs soient ceux de la première catégorie, des cœurs blancs, purs, qui ne peuvent être éteints par quelconque fitna. En effet, mes frères et sœurs, la fitna est une affaire très dangereuse. Même si tu fermais les yeux, tu ne saurais t'empêcher de la voir. Et même si tu te bouchais les oreilles, tu ne saurais t'empêcher de l'entendre. Pourquoi? Parce que c'est une affaire qui concerne aussi et surtout le cœur. Elle concerne le cœur. Et il n'y a pas une époque où la fitna se répand aussi vite que la nôtre. L'époque d'Internet et de la 4G. Et selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, médite avec moi sur ce hadith, hâtez-vous de faire des bonnes œuvres. Hâtez-vous. On a un grand problème, nous. C'est quand on a envie de faire une bonne action, on la repousse tout le temps. À ce soir, à demain, à plus tard. Pourquoi? Abdullah ibn Umar, il disait, « إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. » Si tu es au jour, ne retarde pas une action au soir. Ne la retarde pas au soir. Profite de ton temps pour la faire dans l'immédiat. Le Nabi alayhi salatu wassalam nous dit, « Hâtez-vous de faire des bonnes œuvres. » Car il va y avoir des périodes de troubles et de tentations telles des parties d'une nuit sombre. L'homme s'y trouve croyant le matin et mécréant le soir. T'arrives à imaginer? Le matin, tu te réveilles croyant. Le soir, tu peux dormir mécréant. Écoute la suite. Ou croyant le soir et mécréant le matin. Il vend sa religion pour bien éphémère de ce bas monde rapporté par muslim. Retenez, hâtez-vous de faire des bonnes œuvres. Hâtez-vous. Car il va y avoir des périodes de troubles et des tentations telles des parties d'une nuit sombre. On les voit aujourd'hui faire concession de leur religion pour quelques biens éphémères de ce bas monde, pour quelques euros, pour un poste ou pour une femme. Wala hawla wala quwwata illa billah. Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, rapporte. Nous étions en voyage avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Nous bivouacâmes, c'est-à-dire ils ont campé en plein air dans un endroit. Certains parmi nous dressaient leurs tentes. D'autres s'exerçaient au tir à l'arc et d'autres s'occupaient des bêtes quand le mu'azzin du messager d'Allah alayhi salatu wassalam lança un appel. L'appel venait à la prière en commun. Nous nous rassemblâmes autour du messager d'Allah alayhi salatu wassalam qui dit « Il n'y a pas eu de prophète avant moi qui n'ait été tenu d'indiquer à sa communauté ce qu'il savait être le meilleur pour eux et les prévenir de ce qu'il savait être le plus mauvais pour eux. Votre communauté-ci a vu son salut s'installer dans son début, cependant que ces dernières générations seront frappées d'une épreuve et d'autres choses que vous réprouvez. » Regarde ce qu'il dit le prophète, alayhi salam. Votre communauté-ci a vu son salut s'installer dans son début. La communauté, elle allait bien dans son début. Cependant que ces dernières générations seront frappées d'une épreuve et d'autres choses que vous réprouvez. Les périodes de troubles se succéderont de façon telle que la précédente sera plus supportable que la suivante. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous annonce en fait que chaque époque qui viendra sera pire que celle d'avant. Chaque époque qui viendra sera pire que celle d'avant. C'est comme ça. C'est en train de couler. Des troubles s'installeront et le croyant dira « C'est cette tentation qui va causer ma perte. » Puis ces troubles se dissipent. Puis viendront de nouveaux troubles et le croyant dira à chaque nouvelle tentation, c'est celle-ci, c'est celle-là. Que celui qui veut être écarté du peu et qui veut entrer au paradis meurt alors qu'il croit en Allah et au jour ultime. Écoute, la solution c'est quoi? Que celui qui veut être écarté du peu et qui veut entrer au paradis meurt alors en croyant en Allah et au jour ultime. Qu'il fasse aux autres ce qu'il aime qu'on lui fasse à lui-même. Donc crois en Allah. Hein? Crois au jour dernier. Aime pour tes frères ce que tu aimes pour toi. Celui qui fait acte d'allégeance à un chef en mettant sa main dans la sienne et en l'assurant de sa loyauté sincère, qu'il lui obéisse donc dans la mesure de ses moyens. Si un deuxième chef vient concurrencer le premier, faites tomber la tête du deuxième rapporté par l'imam muslim. Après tout ce qu'on a dit à propos de Hudhayfa ibn al-Yaman au sujet de la fitna, certains pourraient penser que c'était son seul domaine de compétence. Non. Sachez mes frères et sœurs qu'il était également l'un des héros de la bataille de l'Ahzab, les coalisés. Les coalisés avaient encerclé le fossé de l'extérieur. Ça faisait déjà un moment qu'ils étaient encerclés et la situation devenait de plus en plus difficile pour le prophète alayhi salatu wasalam, ainsi que pour ses compagnons radiyallahu anhum. Surtout que pendant ce temps, la tribu juive des Banu Quraïda à Médine avait rompu le pacte avec les musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve attaqué par Banu Quraïda de l'intérieur et de l'extérieur par qui? Ghatafan et Quraysh. Ils sont trois tribus contre lui. Surtout que pendant ce temps, la tribu juive des Banu Quraïda à Médine avait rompu le pacte avec les musulmans qui avaient laissé leurs femmes et leurs enfants là-bas. Une situation très difficile. Au point où les hypocrites ont dit leur célèbre parole qui est la suivante: Muhammad nous promet les trésors de Kisra et de César alors que l'un d'entre nous ne peut même pas faire sortir ses besoins. Écoute bien, la situation était tellement difficile que les hypocrites ont dit leur célèbre parole qui est la suivante: Muhammad nous promet les trésors de Kisra, Kosrès et de César alors que l'un d'entre nous ne peut même pas sortir faire ses besoins. Et ils ont dit, Allah et son messager ne nous ont fait que des promesses trompeuses. Donc, ça c'est ce qu'ont dit les hypocrites. Les musulmans étaient donc encerclés. Quant aux croyants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Cela est mentionné dans le Coran, dans Sourate Al-Ahzab, la Sourate les coalisés, Sourate 33, verset 22. « وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. » Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent: voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité. Regarde, les croyants ont dit quoi? Et Allah et son messager disaient la vérité. Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Leur foi l'a augmenté. Et leur soumission aussi. Et une nuit, et franchement ce hadith là il est vraiment impressionnant, il est rapporté par l'imam muslim et aussi par l'imam Ahmad. Une nuit, alors qu'il faisait très froid et très sombre, pas d'électricité, pas de lumière, le vent soufflait très fort, il fait très froid. Et au milieu de tout cela, le prophète alayhi salatu wasalam était debout à prier. Puis le prophète alayhi salatu wasalam souhaita savoir ce qu'il se passait dans le camp des mushrikin, hein, de l'ennemi. Et écoutez attentivement ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim et l'imam Ahmad, le rapporte aussi dans le Musnad. Le prophète alayhi salatu wasalam demanda, il demande aux compagnons: y a-t-il un homme capable de m'informer de ce qui se passe dans leur camp, dans le camp des mouchriquines, de l'ennemi? Et il invoqua Allah Azzawajal en disant: qu'Allah fasse que cet homme soit avec moi le jour du jugement. C'est immense ou pas? Qui d'entre vous s'infiltre dans le camp de l'ennemi pour m'informer de ce qu'ils disent, de ce qu'ils sont en train de préparer? Et après, Nabi al-Sami dit: qu'Allah fasse que cet homme qui va s'infiltrer soit avec moi le jour du jugement. Tu es d'accord avec moi que la vocation elle est immense? Hudhayfa radiallahu anhu dit: nous sommes tous restés silencieux. Personne n'a répondu au prophète alayhi salatu wasalam. Pourquoi à votre avis? Parce qu'ils avaient peur? Non, les conditions étaient très dures. C'est très très froid. Les conditions étaient très très dures. Dans la version de l'imam Ahmad, un homme de Koufa en Irak parlait à Hudhayfa ibn al-Yaman et lui dit: avez-vous rencontré le messager d'Allah? Hudhayfa lui répondit: oui. L'homme reprit: étiez-vous ses compagnons? Hudhayfa ibn al-Yaman répondit: oui. L'homme dit, comment étiez-vous avec lui? Hudhayfa lui dit, nous faisions notre maximum afin de le protéger et de suivre ses ordres. L'homme dit, quant à nous, si nous aurions rencontré le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, nous ne l'aurions pas laissé marcher sur le sol, mais plutôt nous l'aurions porté sur nos épaules. Cet homme, en fait, il sous-entend par ses propos que les compagnons ont manqué dans leur devoir face au prophète, alayhi salatu wasalam. Et là, Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, lui donna une bonne leçon. Et retenez bien cette leçon. Il lui dit, je vais te raconter une petite histoire. Un jour, nous étions avec le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, durant la bataille d'Al-Ahzab. Puis le prophète, alayhi salatu wasalam, demanda, qui peut aller voir ce qui se passe dans leur camp afin de nous informer de ce qui se passe. Et il invoqua Allah azzajal en disant, qu'Allah fasse que cet homme soit avec moi le jour du jugement. Et dans une version, afin qu'il soit avec moi au paradis. Et là, aucun compagnon n'a bougé de sa place. Je veux que tu essayes d'imaginer la grandeur du danger qui était face à eux. La nuit est ténébreuse, il fait très froid, il faut passer dans le camp des ennemis et revenir avec des informations. C'est pas passer seulement, c'est passer et revenir. C'est une très grande mission, n'est-ce pas? Puis le prophète alayhi salatu wasalam reformula sa demande pour une deuxième fois. Deuxième fois, il dit alayhi salatu wasalam, qui parmi vous peut aller voir ce qui se passe dans leur camp afin de nous informer de ce qu'il se passe chez eux? Aucune réponse. Puis un Nabi alayhi salatu wasalam reformule cette demande une troisième fois. Et personne ne bougea de sa place, rapporte Hudhayfa. Le prophète alayhi salatu wasalam dit alors, lève-toi Hudhayfa. Regarde, il a choisi qui parmi les compagnons? Lève-toi Hudhayfa. Hudhayfa dit, je n'ai pas eu le choix de faire autre chose que ce qu'il m'a demandé, sachant qu'il m'a appelé par mon nom. Il m'a dit, pars et apporte-moi les nouvelles de l'ennemi et ne te fais pas remarquer. Pourquoi? Parce qu'il veut les informations au retour. Hudhayfa, qui en partant en ayant froid, dit, lorsque je suis parti de chez lui, j'avais très chaud comme si j'étais dans un hammam. C'est pas impressionnant, franchement? C'est-à-dire, il faisait super froid. Mais là, il dit, j'avais très chaud comme si j'étais dans un hammam. Il ne ressentait plus la froid. Comment est-ce que ça s'appelle? Le soutien d'Allah Azzawajal. Le soutien d'Allah Tabaraka Ta'ala. Allah Azzawajal a dit dans Sourate Al-Ankabut, sur 29, verset 69, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Vous avez vu un peu la confiance en Allah que Hudhayfa radiallahu anhu avait? Combien nous avons besoin de cette confiance de nos jours? Il se pourrait que quelqu'un soit malade, tellement malade qu'il n'ait même pas la force de se lever de son lit. Mais par sa confiance en Allah, lorsqu'il s'agit d'aller à la Jumu'ah ou à un Dars, il trouvera la force de se lever et d'y aller. Comme si il n'avait jamais été malade. Et une fois rentré chez lui, la maladie et la douleur reviennent. Et on ne peut atteindre ce degré que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette grâce, on ne l'obtient qu'en obéissant à Allah azzawajal. Hudhayfa, radiallahu anhu, rentra dans le camp ennemi. Il a réussi à s'infiltrer et vit Abu Soufiane, leur chef, qui était autour d'un feu qu'il avait allumé pour se réchauffer. Hudhayfa dit, j'ai placé une flèche dans mon arc afin de la jeter sur lui. Et si je lui avais jeté cette flèche, je l'aurais visé. Mais je me suis souvenu de la recommandation du prophète alayhi salatu wasalam, qui m'avait demandé de ne pas me faire remarquer. Vous voyez comment il exécute les ordres du prophète alayhi salatu wasalam? C'est comme ça le croyant, il doit exécuter. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit une chose, il obéit. Il écoute l'ordre de Nabi alayhi salatu wasalam, il obéit. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans sourate Al-Ahzab, sur 33 verset 36, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Allah azza wa jalla nous dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Quand Allah et son messager alayhi salam décident d'une chose, tu n'as plus le choix. Quand Allah et le prophète alayhi salatu wasalam décident d'une chose, tu n'as plus le choix de choisir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. Dans la version de l'imam Ahmad, et cette version contient une faiblesse dans Sanad, Abu Sufyan a dit « Je veux que chacun s'assure de son voisin. » Il craignait la présence d'un espion. « Je veux que chacun s'assure de son voisin. » C'est-à-dire, il lui demande « Tu es qui ?» Chacun demande à son voisin « Tu es qui ?» Craignant pour sa vie, Hudhayfa s'empressa de s'adresser à son voisin. Il lui dit « Qui es-tu » Subhanallah, il lui dit « Tu es qui ?» Il lui a dit « Un tel. » Il lui a dit « Ah, c'est bon. » Avant qu'on lui fasse, il a anticipé pour ne pas se faire remarquer, radiallahu anhu. Regardez comment les compagnons étaient perspicaces et intelligents. Hudhayfa, radiallahu anhu, retourna en ayant chaud comme s'il était dans un hammam. Il dit « Je suis arrivé auprès du prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, qui était en prière. Une fois sa prière terminée, je l'ai informé de ce qui se passait chez l'ennemi. » Hudhayfa a dit, après avoir terminé d'informer le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, Hudhayfa ressentit de nouveau le froid. C'est incroyable. Puis le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, lui mit une cape qu'il portait. Et lors de la bataille de Badr, Hudhayfa, radiallahu anhu, était absent. Il n'était pas présent. Mais à votre avis, pourquoi ? Il raconte lui-même que la seule chose qui l'a empêché de prendre part à cette campagne, c'est un engagement qu'avaient pris de lui les mouchriquines de Mecca de ne pas le faire. Ce qui s'est passé en fait, c'est que lorsqu'il avait émigré de Mecca avec son père, les mouchriquines, Quraysh, les ennemis, après les avoir interceptés, avaient fini par les relâcher et les laisser partir en leur faisant promettre de ne pas combattre auprès du prophète alayhi salatu wasalam contre eux lorsqu'ils allaient retourner à Médine. Donc imagine-toi, il s'est fait attraper Hudhayfa radiallahu anhu avec son père. Et leur ont dit, on vous relâche. Mais par contre, vous allez à Médine, vous ne combattez pas avec le prophète, alayhi salatu wasalam, notre armée. Donc, il leur a donné cet engagement. Imaginez l'envie de Hudhayfa et de son père d'aller combattre avec le prophète, alayhi salatu wasalam. Mais ce qu'il faut savoir, mes frères et sœurs, c'est que la religion ne se base pas sur les sentiments, mais sur le Coran et la Sunna. Il, alayhi salatu wasalam, dit, nous remplissons l'engagement que nous avons envers eux. C'est-à-dire, envers les Quraishites. Nous remplissons l'engagement que nous avons envers eux. Et il a dit, alayhi salatu wasalam, et nous recherchons l'aide d'Allah contre eux, c'est rapporté par Muslim. Nous remplissons l'engagement que nous avons envers eux. Et nous recherchons l'aide d'Allah contre eux, rapporté par Muslim. Hudhayfa radiallahu anhu respecta sa promesse de ne pas se battre. Et si le prophète alayhi salatu wasalam avait un énorme besoin d'hommes pour combattre, n'est-ce pas ? Dans la bataille de Badr. Mais cela ne l'a pas empêché de respecter ses engagements et de les faire respecter aux compagnons. Le prophète alayhi salatu wasalam aurait pu leur dire, vous êtes des ennemis, on est en guerre, vous avez fait souffrir Bilal, vous avez tué Soumaïa, vous avez fait couler du sang, vous avez torturé des compagnons, vous avez tué Yasser. Non. Il alayhi salatu wasalam a fait la part des choses. Et lors de la bataille de Uhud, le père de Hudhayfa radiallahu anhu a été tué par erreur par les musulmans. Par les musulmans. Quant à Hudhayfa, il adopta le meilleur des comportements et eut la meilleure réaction que puisse avoir un croyant, un vrai croyant répliquant, qu'Allah vous pardonne, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et il refusa la compensation que souhaita lui payer le prophète alayhi salatu wasalam en guise de prix du sang de son père. Et il demanda que cet argent soit donné aux pauvres. Radiallahu anhu. Et sous le califat de Omar, Hudhayfa radiallahu anhu sera envoyé à Al-Kufa. Al-Kufa c'est en Irak. Et il en sera l'émir. Et lors de la bataille de Nahawand, lorsque les Perses ont rassemblé une armée de plus de 150 000 hommes, alors que les musulmans n'étaient même pas 30 000, Omar radiallahu anhu désigne alors An-Nu'man ibn Muqrin radiallahu anhu en tant que chef de l'armée des musulmans. Puis il dit, si An-Nu'man est tué, ce sera Hudhayfa ibn al-Yamam. Et en effet, durant la bataille, An-Nu'man sera tué. Et avant que l'étendard ne tombe par terre, Hudhayfa radiallahu anhu surgit pour le récupérer, comme cela a été commandé par Omar radiallahu anhu. Donc Hudhayfa était également un héros, un homme courageux sur le champ de bataille. Lorsqu'An-Nu'man tomba, Hudhayfa radiallahu anhu se mit à motiver ses troupes et à appeler les compagnons en leur disant, ô compagnons du prophète, le paradis d'Allah vous a été préparé. Précipitez-vous donc vers lui. Ô héros de Badr, ô héros d'Uhud, ô héros d'Al-Khandaq, après avoir remonté le moral des compagnons, la victoire lors de cette bataille a été attribuée aux musulmans par la grâce d'Allah Azzajal, puis par la cause de notre héros du jour, Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu. Les jours passèrent jusqu'au jour où Hudhayfa, radiallahu anhu, s'allongea sur le lit de la mort pour ainsi retrouver son Seigneur, Jalla wa Ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée Hudhayfa et le récompense de la meilleure des manières, et qu'Allah Azzajal nous rassemble auprès de lui au paradis, aux côtés du messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, bien que nos œuvres soient insuffisantes. Les compagnons, radiallahu anhum, ont beaucoup sacrifié pour que cette religion nous parvienne. Ils ont été dans des batailles, ils ont demandé la science, ils l'ont propagée. Certains d'entre eux étaient des savants, d'autres des combattants, d'autres des généreux qui ont donné pour faciliter à la communauté de s'agrandir. Est-ce qu'avec toutes ces biographies, on va se remettre en question un minimum, essayer de se réformer et essayer de leur ressembler à ces modèles, à laisser une empreinte positive avant de mourir? Regardez, ça fait combien d'années qu'ils sont morts et jusqu'à maintenant on parle d'eux. Jusqu'à maintenant on parle d'eux parce que c'était des hommes, des modèles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ressuscite auprès d'eux et qu'on puisse entrer au paradis avec les sahaba, l'anbiya, shuhada, salihin. Sallallahu tabarak wa ta'ala an yanfa'ni bima qult wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu Allahu azza wa jal a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.